Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 19h, nous démarrons. L'appel d'abord, Anne-Marie Comanaï. Va arriver sûrement.
Catherine Demen, Geneviève Dariussec,
présente.
Hervé Bayard,
présent.
Muriel Croce, présente. Bertrand Tortigue,
présent.
Marie-Christine Bourdieu, absent. Pouvoir donner à Hier le Darféron,
présent.
Charles Daillot,
présent.
Chantal Davidson,
présent.
Farid Deba,
présent.
Eliane Darféron,
présent.
Antoine Vigneault-Tuquet, Catherine Piquet, Jean-Paul Gantier.
Il arrive, je pense.
Catherine Dupuy-Vendrepol,
présente.
Gilles Jouvin,
présent.
Chantal Couturier,
présente.
Bruno Rouffia,
présent.
Chantal Planchenot,
présente.
Nicolas Tachon,
présent.
Stéphanie Chédad,
présent.
Thierry Socolia-Béer, absent, donne pouvoir à Geneviève Dariussec. Pascal Horry,
présent.
Jean-Marie Badi, Marina Bancon,
présent.
Renaud Laïtet,
présent.
Elisabeth Lignac-Gerbeau.
Elle donne Pascal pouvoir à Renaud Laïtet.
Didier Simon,
présent.
Karen Juan,
présent.
Julien Antunes,
présent.
Véronique Claise,
présent.
Sylvie Ingan,
présent.
Michel Garcia, Jean-Paul Le Tyran,
présent.
Florence Thomas,
présent.
Xavier Dumoulin, Jean-Louis
Dariotor,
Régine Nellig, Patrick Dangoumeau, excusé, Joël Bonnet,
présent.
Delphine Salambier, Bernard Kuzinski,
présent.
Marie-Denis,
présent.
Olivier Boissé,
présent.
Laetitia Tachon,
présent.
Éric Mesrich, excusé, Marilyn Rousseau, excusé, Denis Capdeviol,
présent.
Bien, merci beaucoup. Le quorum est largement atteint. Je vais vous proposer de voter le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2014. Y a-t-il des éléments mal retranscrits ? Je ne vois pas de main se lever. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc ce procès-verbal est entériné. Je vous remercie. Donc je voudrais d'abord vous représenter Caroline Dezègue, notre directrice générale des services. Alors je l'ai présentée au vœu, mais alors elle est un peu cachée. La configuration de la salle n'est pas facile. Et en plus, il y a les écrans qui sont baissés. Caroline Dezègue donc a intégré notre collectivité en tant que directrice générale des services. Elle est administrateur territorial. Elle nous vient de la mairie de la commune de Mérignac, en Gironde, où elle était directrice générale adjointe chargée des ressources. Et donc c'est une évolution de carrière pour elle. Et nous sommes très heureux de l'accueillir parce que dans les ressources, bien, nous allons avoir beaucoup de travail aussi à effectuer, et elle a de l'expertise dans ce domaine. Mais je sais aussi que depuis qu'elle est là, elle appréhende bien notre territoire, les projets en cours tout ce que nous devons mettre en œuvre dans les années à venir. Donc vous pourrez la rencontrer après. Et parler avec elle, si vous le souhaitez, pour faire sa connaissance après, pour ceux qui ne l'ont pas rencontrée, à la fin de notre conseil communautaire. Enfin voilà, nous sommes très heureux qu'elle soit arrivée. Vous parlez du compte rendu des décisions que vous avez dans votre dossier. Est-ce que, alors je ne vais pas lire ces quatre pages, il n'y a rien de très extraordinaire, mais est-ce qu'il y a des décisions qui appellent des questions ? Bonsoir, monsieur de Vaisseau-Miral. il n'y en a pas, parfait. Donc nous allons attaquer nos délibérations. Alors vous dire quand même que nous avons quelques moments importants avec le, bien sûr le débat d'orientation budgétaire, puisque notre budget sera voté le 14 avril, je crois. Donc nous devons de faire ce débat au moins dans les deux mois précédents. Nous avons un rapport développement durable du Marsan qui est assez intéressant et je crois qu'on pourra s'arrêter sur deux ou trois choses importantes pour notre territoire. Le schéma directeur cyclable qui peut paraître anecdotique mais qui ne l'est pas du tout, notamment pour certaines associations et pour les amateurs de vélo. Et puis un appel à projet régional tourisme qui est aussi un dossier qui va être très intéressant pour notre territoire. Donc, nous allons démarrer notre conseil immédiatement avec la première délibération qui concerne l'enveloppe 2015 de notre dotation solidarité communautaire, DSC, oui, pas DCS. Et je vais donner la parole à Hervé Bayard.
Merci, madame la présidente. Alors, comme chaque année, nous avons adopté le montant de la DSC, dotation de solidarité communautaire, ainsi que sa répartition entre communes membres. En 2015, ce montant sera identique à 2014, soit 1,8 million d'euros, réparti en fonction des quatre critères suivants. Deux sont obligatoires, la population pour 65% et le potentiel fiscal pour 16%. Deux autres critères sont librement décidés par la communauté, les effectifs scolaires pour 14% et la superficie forestière pour 5%. Les montants correspondants à cette répartition apparaissent dans le tableau joint à la délibération. Il est à souligner que les critères d'attribution feront l'objet en 2015 d'une réflexion menée au sein de la Commission des finances. Réflexion rendue nécessaire du fait que les effectifs scolaires ne soient plus suffisamment représentatifs, la compétence scolaire devenant communautaire.
Et donc le montant, c'est de rester au montant de 1,8 million que nous avions déterminé. Puisque, voilà, qui est inchangé, puisqu'il nous a, il nous est apparu de toute façon qu'il était important de garder cette dotation de solidarité communautaire à ce niveau équivalent aux autres années pour les communes, notamment pour les deux prochaines années, parce que nous allons avoir des... tous dans nos budgets communaux et dans le budget communautaire d'ailleurs... besoin d'absorber ou de digérer la compétence, le transfert de compétences scolaires et donc d'équilibrer nos budgets. Alors nous n'allons pas rajouter un facteur supplémentaire qui pourrait être un facteur de difficulté. Y a-t-il des questions sur cette DSC ? Bon, enfin, vous connaissez le processus. C'est une dotation de solidarité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Y a-t-il des votes contre, monsieur Apestegui ? Des abstentions ? C'est adopté à la majorité avec un vote contre. La présentation donc du rapport sur la situation en matière de développement durable de notre agglomération. Alors c'est une présentation, c'est un rapport qui est à faire obligatoirement, qui est à présenter tous les ans. Vous le savez, ou pour les nouveaux élus, peut-être que vous ne le savez pas, mais donc vous verrez tout ça tous les ans, qui reprend un petit peu la, qui reprend eh bien toutes les actions menées au niveau de notre agglomération et qui les concentre dans ce rapport en phase avec le développement durable, dont les trois piliers. Je le rappelle, sont les piliers environnementaux, les piliers, le pilier social et le pilier économique. Je pense que vous avez tous lu ce rapport avec intérêt. À noter quand même plusieurs éléments. Bon, alors, dans les, en termes environnementaux, dans les... les investissements que nous avons pu directement effectuer pour la biodiversité, pour la mise en valeur de notre patrimoine, il y a bien sûr le dossier du parc naturel urbain et du site des Neuf Fontaines qui s'est achevé là, cette fin d'année 2014 ou début 2015 complètement. Il y a bien sûr... alors, il y a un dossier intéressant, c'est cet appel à projet pour le territoire à énergie positive, pour lequel, en fait, depuis que tout ça a été écrit, nous avons eu la réponse du ministère de l'Environnement qui nous a retenus dans cet appel à projet à énergie positive, qui est un projet, je crois, important pour les territoires, puisqu'il est question, d'une part, de mener des mesures pour économiser de l'énergie, et d'autre part, de mener des actions et d'avoir des effets de levier pour pouvoir mettre en œuvre des consommations énergétiques différentes autour des énergies renouvelables. Ce qui a fait retenir notre dossier par le ministère, c'est le fait que nous soyons deux territoires associés pour ce dossier, un territoire dit urbain comme le nôtre, et le territoire de la communauté de communes de Landes d'Armagnac, qui est un territoire rural. Et c'est l'originalité de ce projet, le fait de ce travail en commun et de vouloir développer des actions, notamment dans la création d'énergies renouvelables et puis l'utilisation de ces énergies au niveau urbain, et de la création et de l'utilisateur, et cette proximité, et quelquefois ces circuits courts que l'on pourra mettre en œuvre, qui ont retenu l'attention du ministère. Savoir aussi qu'être territoire à énergie positive permet, bien entendu, ce n'est pas la collectivité qui va développer les choses, mais ça permet un effet de levier, et ça permet d'avoir à des porteurs de projets des aides conséquentes, des aides plus conséquentes, quand l'on est dans ces territoires à énergie positive. Et cela permet aussi, cela permettra à nos deux collectivités de pouvoir développer des actions sur les économies d'énergie en particulier. Donc je crois que c'est un vrai beau dossier que mène Serge Jourdan pour la communauté Landes d'Armagnac et Thierry Socodia-Béhère, qui ne pouvait pas être là ce soir pour notre collectivité. C'est un beau dossier. Ensuite, nous avons dans ce document tout ce que nous avons pu développer en termes d'aide pour les logements, pour travailler sur la précarité énergétique, tout ce qui est travaux dans les logements, où nous avons fait des investissements relativement importants. Les transports en commun, bien sûr, avec une augmentation en puissance de l'utilisation de nos transports en commun. Vous avez pu lire les tableaux, encore une augmentation très significative de fréquentation entre 2013 et 2014. Mais aussi, dans ce dossier aussi de transports en commun, nous avons été retenus à un appel à projet national notamment pour nous, des bus à haut niveau de service, avec une subvention conséquente prévue de 630 000 euros, si ma mémoire est bonne, qui va nous permettre de pouoir développer sur la ligne A, qui est la ligne la plus fréquentée de notre réseau, qui va nous permettre de pouvoir développer des aménagements qui permettront de rendre cette ligne plus efficace et de la rendre encore plus attractive. Et puis, bien entendu, il y a tout le passage sur la gestion de la collectivité. Bien sûr, ce qui s'apparente à la démocratie participative, puisque, par exemple, pour les cycles, on travaille beaucoup avec pour le vélo, les modes doux, on travaille beaucoup avec les associations. Bon, voilà, c'est un résumé assez intéressant de ce qui a été développé sur notre territoire pendant l'année 2014. J'ai fait un monologue, je vous laisse la parole. Si vous avez... Alors, il n'y a pas de vote, c'est un rapport, pas de vote particulier. Mais je crois qu'à l'heure où l'environnement reste... le développement durable dans son ensemble, je parle de, d'environnement, mais aussi d'amélioration sociétale et d'économie tournée vers les énergies renouvelables, je crois que nous sommes vraiment dans le cœur du sujet. Pas de commentaires ? Très bien. Je vous remercie. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le quand même. Mais vous avez l'air de tous l'avoir lu, donc c'est formidable. Le débat d'orientation budgétaire. Je vais donner la parole à Hervé Bayard.
Merci Madame la Présidente. Le DOB permet d'imaginer, en fonction de la situation financière de la communauté, du contexte économique et des lois et dispositions en vigueur, quelles seront les priorités et les objectifs du budget ou des budgets de l'agglomération à venir. À travers une quinzaine de diapositives, nous allons vous livrer le plus clairement possible un ensemble d'éléments destinés à vous faire une idée des enjeux et des difficultés auxquels nous sommes confrontés, mais aussi des atouts dont nous pouvons nous targuer. Notre exposé se décompose en 5 grandes parties: le contexte économique actuel et les perspectives nationales pour l'année à venir, les nouvelles mesures prévues par la loi de finances 2015 et leurs conséquences sur nos finances, la situation financière du Marsan Agglomération, les grandes orientations du projet de BP pour 2015 et enfin les objectifs et les leviers pour y parvenir. Nous avons choisi de qualifier le contexte économique actuel de défavorable, tant les indicateurs, aussi bien l'évolution du PIB, du chômage, de l'inflation, de la dette publique, sont peu encourageants. Avec une activité atone, seulement 0,5%, une inflation légèrement positive, voire peut-être même négative, une consommation et un investissement en berne, un endettement public en progression, un emploi qui régresse, le taux de chômage de 10,4% à 10,6% en 2015, et un déficit public conséquent, notre économie est très clairement en souffrance. Si quelques organismes prédisent une situation bien meilleure en 2015 qu'elle ne fut en 2014, tout cela reste très fragile, ce qui nous plonge dans des perspectives peu encourageantes. Certes, les taux d'intérêt sont au plus bas, le coût de l'énergie est moindre, mais ces phénomènes plus conjoncturels que structurels doivent être perçus comme des effets d'aubaine plus que durables. Le risque de plonger dans une spirale déflationniste a récemment contraint la BCE à intervenir rapidement en rachetant des titres de dette souveraine, injectant ainsi davantage de liquidités dans l'économie. Les quelques indicateurs mentionnés sur cette diapositive illustrent un contexte économique déprimé. Dans les chiffres présentés, un est à souligner parce qu'il nous indique l'évolution des prix des charges à supporter pour faire fonctionner notre collectivité. Il s'agit de l'inflation du panier du maire, plus 1,4%. Alors que l'inflation dite de la ménagère n'est que de 0,6%. Le gouvernement, très logiquement, s'est fixé comme objectif de réduire le déficit public et pour cela a mis notamment à contribution les collectivités en diminuant les dotations dévolues. Moins 12,5 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Le tableau présenté, élaboré par le cabinet Clockfer, cabinet qui fait autorité dans le monde des finances locales, ce tableau atteste donc de l'impact de cette baisse sur les budgets des collectivités. Quel est cet impact ? La capacité de désendettement moyenne des collectivités sans mesure de compensation sera doublée en 2018. 4,7 ans en 2014, 10,2 en 2015. Du fait d'un autofinancement en baisse, épargne brute moins 28% et d'un endettement en hausse. Durant cette même période est prédit une baisse de l'investissement entre 30 et 50% à horizon 2017. Certaines collectivités pourraient afficher à ce même horizon un autofinancement négatif. La nouvelle loi de finances renferme des mesures qui auront un impact sur notre budget. Dans cette diapositive, nous avons listé celles qui avaient un impact négatif et celles qui ont un impact que l'on pourrait qualifier de positif. Les mesures ayant un impact négatif. Celle qui aura en volume le plus d'impact, il s'agit de la DGF qui va baisser globalement de 3,67 milliards d'euros. Environ moins 590 000 euros pour le Marsan Agglomération. Entre 2014 et 2017, notre collectivité connaîtra une baisse d'environ 2 millions d'euros, soit 6% de ses recettes réelles de fonctionnement. Autre impact négatif, les déductions fiscales seront moins compensées puisqu'elles affichent une baisse de 29%. les mesures ayant un impact positif. Il s'agit de l'augmentation de l'enveloppe du FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale. Ce fonds, créé en 2012, repose sur un mécanisme de solidarité entre les communautés les plus riches et les autres communautés. Ce fonds passe de 570 millions d'euros à 780 millions d'euros. Du fait du niveau de notre effort fiscal, 1,20, nous devrions encore en bénéficier. Le seuil minimal pour être éligible de l'effort fiscal passe d'ailleurs de 0,85 à 0,90. Autre mesure ayant un impact positif, les valeurs locatives seront réévaluées de 0,9%, la même chose en 2014. Cette revalorisation ne compense pas le faible niveau général de notre base d'imposition. Autre mesure ayant un impact positif, le taux de FCTVA passera de 16,404%, il était à 15,761% en 2014. Enfin, autre mesure, le fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires sera maintenu. Il représente 50 euros par élève pour toutes les communes, 40 euros de dotation majorée pour les communes urbaines ou rurales bénéficiant de la DSU cible et de la DSR. Nous avons pris connaissance d'éléments afférents à la situation économique. Nous avons également pris connaissance des mesures contenues dans la loi de finances ayant un impact sur notre budget et des perspectives en matière financière des collectivités. Avant de préciser la situation financière dans laquelle se trouve notre collectivité, je souhaitais vous présenter ce petit schéma qui décrit parfaitement l'organisation d'un budget, en vous rappelant que le budget d'une collectivité recense avant tout des flux. Ce schéma resitue chacun des types d'épargne qui sont à apprécier, l'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette. Notre collectivité affiche une situation financière satisfaisante qui lui permet de faire fonctionner correctement ses services et d'investir. Si ses dépenses de fonctionnement ont progressé ces dernières années, plus 5,07% par an depuis 2009, cela résulte de l'intégration et du plein exercice de nouvelles compétences ou du fonctionnement de nouveaux équipements. Il s'agit notamment, en 2010, du pôle culturel, dont le coût annuel de fonctionnement s'élève aujourd'hui à 500 000 euros. En 2011, de l'Office du tourisme et de la création de la DSC, 1,8 million d'euros, nous avons évoqué cette question dans la première délibération. À ce sujet, nous pouvons préciser que le reversement de fiscalité s'opérait en 2014 à hauteur de 41%. Il était déjà de 62% pour l'ensemble des agglomérations en 2011. 2012, création de la médiathèque dont le coût annuel de fonctionnement s'élève aujourd'hui à 1,3 million d'euros. En 2013, subvention allouée au CIS, subvention qui a augmenté de façon significative ces dernières années et qui aujourd'hui est à hauteur de 1,4 million d'euros. Du fait de la montée en puissance de notre collectivité, les charges de personnel ont progressé dans des proportions plus que raisonnables. Je vous rappellerai que le Marsan Agglomération regroupe 112 agents, dont 37 travaillent à la médiathèque et 31 au centre technique. Les frais de personnel représentent 30% des frais de gestion, 32,5% déjà en 2010 pour la strate. Autre charge de fonctionnement, les frais financiers, qui découlent de notre niveau d'endettement, représentaient en 2014 4,9% des dépenses, un pourcentage supérieur au 1,7% pour la strate. Les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement issues de la fiscalité et des dotations permettent de financer nos dépenses de fonctionnement. La différence nous permet de dégager une épargne qui participera au financement de nos investissements. Ces recettes de fonctionnement ont progressé de 2,13% par an, en moyenne depuis 2009. Nos recettes de fonctionnement sont nettement inférieures à la strate correspondante. 524 euros par habitant, 624 pour la strate déjà en 2011, du fait de bases fiscales très basses. Écart de 115 euros par habitant pour la taxe d'habitation et 358 euros par habitant pour la taxe foncier bâti. Nous devons faire face à un effet de ciseau qui s'accentue avec la baisse des dotations, comme toutes les autres collectivités. Nous l'avons vu à travers le tableau Cloquefer de la diapositive 3. Recettes qui progressent seulement de 2,13%, alors que nos dépenses augmentent de 5,7%. La DGF pèse lourdement dans nos ressources de fonctionnement, puisqu'elle représente 20,82%, 49,19 euros par habitant en 2013 contre 47 euros par habitant pour la strate en 2010. Une diminution de la DGF de 4,88% en 2014. Bien sûr, cette baisse se traduit immédiatement pour notre collectivité par un déséquilibre dans notre budget. Les taux d'épargne sont des éléments importants d'appréciation et d'analyse d'un budget. Je rappellerai que l'épargne nette permet de financer avec les subventions et l'endettement l'investissement. Ce graphique atteste de l'évolution des différents niveaux d'épargne depuis 2009. Plusieurs remarques à formuler. Notre niveau d'épargne, malgré une baisse, est toujours bon. 11,21% en 2014, 13,72% pour la strate en 2010 et 11,59% pour l'ensemble des collectivités. Autre remarque, nous avons dégagé autant d'autofinancement épargne nette en 2014 qu'en 2013, soit 1,4 million d'euros, du fait notamment que nous n'ayons pas eu à mobiliser d'emprunt. L'épargne de gestion en bleu a subi une forte baisse en 2011, impact du transfert des bibliothèques et de la DSC, puis en 2013, impact de la subvention au CIAS, alors que l'épargne brute en rouge a dû supporter des frais financiers plus importants et l'épargne nette en jaune du remboursement d'un capital de dette plus significatif. Cette diapositive retrace le niveau d'investissement depuis 1999, date de création de la communauté d'agglomération. Il est à noter que le Marsan Agglomération a investi en moyenne 11,4 millions d'euros par an entre 1999 et 2014, avec des années sans réel investissement, par exemple en 2002, avec seulement 2,7 millions d'euros, et des années plus denses en la matière, en 2011 notamment, avec la réalisation de la médiathèque, mais aussi en 2009 avec la réalisation du pôle culturel, et 2012 avec l'Office du tourisme et le Centre technique. Entre 2008 et 2014, le rythme des investissements s'est accéléré, puisque ces derniers représentent durant cette période 50% de l'investissement global. Il faut préciser que 75% des investissements réalisés à partir de 2009 relèvent de décisions prises avant 2009. Sur cette diapositive est listé l'ensemble des investissements depuis la création de la communauté d'agglomération. Je ferai plusieurs remarques. La médiathèque et le pôle culturel représentent 20% de l'investissement global. L'investissement en matière de voirie représente 50% de l'investissement global. Tous les investissements sont durables, avec des durées de vie longues, voire même très longues. En ce qui concerne le financement de ces investissements, ce financement a été assuré jusqu'en 2011 en moyenne à hauteur de 68% par l'épargne brute et 32% par des ressources propres, ce qui a permis de se désendetter. En 2014, l'emprunt représente 0% du financement, l'épargne et les ressources propres ainsi que le fonds de roulement représentant 100%. Diapositive suivante. Quelques précisions maintenant au sujet de l'endettement de notre collectivité. Il ne s'agit pas d'investir, encore faut-il pouvoir financer ces investissements, sans pour autant mettre en péril nos finances. Le niveau d'endettement ramené à l'autofinancement est un des critères sur lesquels nous nous appuierons pour piloter notre budget, mais nous aborderons cette question des objectifs dans une diapositive à venir. Le Marsan Agglomération dispose d'une dette dite « jeune », c'est-à-dire contractée ces dernières années. L'encours de dette a diminué de 76% entre 2005 et 2010, soit un désendettement quasi total. Sur cette période, le fonds de roulement a été totalement consommé, et ce jusqu'en 2011. On peut dire que durant cette période, il a été fait le choix du désendettement au détriment de l'investissement, mais aussi qu'on a opéré un prélèvement sur l'économie et les ménages, sans pour autant qu'il y ait eu réalisation de services publics nouveaux. En 2011, 2012, puis 2013, on a eu recours à l'emprunt pour financer des investissements lourds, médiathèque, pôle culturel, vu précédemment. Notre capacité de désendettement est de 9,7 ans en 2014. Le ratio en cours de dette sur recettes de fonctionnement est de 103%. Il est de 58,9% pour la strate. Le faible niveau de nos recettes de fonctionnement évoqué précédemment par rapport aux communautés de même dimension nous pénalise. Quelques éléments au sujet de la fiscalité. À présent, le Marsan Agglomération souffre de recettes fiscales faibles comparé aux autres collectivités de la même strate. Les chiffres présentés sur cette diapositive attestent de ce fait. Globalement, nous enregistrons un écart de recettes additionnées, taxes d'habitation, taxes foncières bâties, un écart avec la strate de 1 million d'euros par an. Aspect très important, les taux sont inchangés depuis la création de l'agglomération. Taxe d'habitation 10,84%, taxe foncier non bâti 6,01%, taxe foncier bâti 1,84% et CFE 28,12%. En ce qui concerne la fiscalité entreprise, notre territoire est très compétitif par rapport aux autres territoires de notre région. Nous avons étudié la situation financière de notre agglomération. Il s'agit maintenant de prendre connaissance de quelques données à intégrer dans nos perspectives 2015. Au sujet des recettes de fonctionnement, je le rappelle, les bases fiscales seront réévaluées de 0,9% et les dotations seront amputées de 590 000 euros par rapport à 2014. Au sujet des charges de fonctionnement, hors transfert scolaire et politique de la ville, qui interviendront courant 2015, nous retiendrons les hypothèses suivantes. Maîtrise des charges courantes, maintien à leur niveau actuel, mais effet plein sur certains postes. Hausse nette d'environ 2% des frais de personnel du fait de la prise en compte en année pleine de certains postes, je viens de le préciser. Hausse des frais financiers du fait de l'incidence d'emprunts à mobiliser en 2015. Maintien à leur niveau 2014 des reversements de fiscalité, vu dans la délibération 1, avec la DSC qui est maintenue à 1,8 million d'euros. Et maintien de la subvention au CIS à 1,450 000 euros. Ce soutien apporté au Centre intercommunal d'action sociale a connu ces dernières années une évolution significative, ce qui représente une charge importante pour le budget de notre agglomération. Je le rappelle, 1 450 000 euros. J'ai souhaité, dans le cadre de cette présentation, y consacrer un rapide focus. Entre 2012 et 2014, la subvention a presque doublé, plus 80%. Sur 1 450 000 euros de subventions versées, 495 000 euros sont à destination du SAD, Service d'aide à domicile, 260 000 euros sont à destination de la plateforme sociale, 90 000 euros à destination du portage de repas et 55 000 euros sont à destination du RAM. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail du CIS, mais seulement de prendre toute la mesure du soutien conséquent apporté par notre agglomération. En 2015, comme les années précédentes, et malgré une situation peu favorable, Marseille Agglomération continuera d'investir, ne serait-ce que pour poursuivre les programmes en cours, la voirie, la politique en faveur du logement, et achever les projets entamés, parc naturel urbain, boulevard Nord. Plusieurs domaines d'intervention et objectifs se dégagent. D'abord, développer l'économie, l'emploi et la formation, avec la poursuite du soutien au pôle de compétitivité à Kinetic, avec la poursuite du partenariat avec l'UIT des Pays de l'Adour, avec le programme d'aide aux entreprises désirant s'installer sur notre territoire. Autre point, la poursuite de l'aménagement du Marsan avec le boulevard Nord, avec également le pôle d'échange multimodal. Troisième point, l'attractivité des communes avec l'entretien des voiries et aide aux communes justement à travers les fonds de concours. Ensuite, il conviendra d'élargir l'offre touristique du Marsan avec les travaux d'aménagement du nouveau site de Castets, aménagement d'accessibilité aux handicapés et création d'une aire de jeu à Ménas. Il s'agira également de soutenir le logement et développer la solidarité, avec l'aide à la construction pour les bailleurs sociaux et poursuite de l'OPA-RU et du PIGE, également subvention au CIS pour financer les services d'aide à domicile notamment. Le montant d'investissement 2015, bien sûr, dépendra des objectifs financiers fixés et des leviers utilisés pour y parvenir. En parlant d'objectifs financiers, nous vous proposons de retenir les deux principaux, le taux d'épargne, épargne brute rapportée aux recettes de fonctionnement, et la capacité de désendettement en année, en cours de dette rapportée à l'épargne brute. Ces deux ratios traitent de l'ensemble des composantes d'un budget. À l'horizon 2020, nous vous proposons comme objectif un taux d'épargne brute de 10% et une capacité de désendettement de 11 ans maximum. Ces niveaux sont considérés par tous les spécialistes comme reflétant une bonne situation. Nous vous proposons de rendre l'agglomération en fin de mandat dans une situation identique à ce qu'elle est, et ce malgré un contexte compliqué. Nous vous proposons de maintenir à l'agglomération des capacités pour fonctionner et investir, sans hypothéquer l'avenir. En quelques mots, faire face au présent, tout en préservant le futur. Pour atteindre ces objectifs, nous pouvons agir sur différents leviers. Chacun d'eux présente des risques et des atouts. Nous pouvons au choix, concomitamment ou séparément, baisser les charges de fonctionnement, mais nous devons être vigilants concernant la qualité du service public. Nous pouvons supprimer ou diminuer les transferts, et notamment la DSC, mais nous risquons de créer une forte pression sur les budgets communaux. Une suppression de la DSC pourrait obliger certaines communes à augmenter leurs impôts de 15%, voire à 40%. Nous pouvons également renoncer à soutenir l'investissement, mais l'économie locale et l'emploi pourraient pâtir de ce choix. Une baisse de 10% des dépenses, c'est 0,2 points de croissance en moins. 1 million d'euros investis, c'est 10 emplois créés ou préservés. Pardon. Enfin, également, plutôt, nous pouvons augmenter la fiscalité locale, mais nous solliciterons des ménages et des entreprises déjà fortement mises à contribution. Pour exemple, néanmoins, 1% de hausse des trois taxes ménages représente 80 000 euros de recettes. Le coût supplémentaire par ménage va de 7 à 17 euros pour la taxe d'habitation. Nous pouvons recourir à l'endettement, mais nous risquons d'affaiblir notre autofinancement avec un coût de la dette supplémentaire. 1 million d'euros de plus, c'est 84 000 euros d'annuité, intérêt plus capital en plus. Nous pouvons également bonifier les dotations d'État. Cela passe par l'augmentation de notre CIF, coefficient d'intégration fiscale. Les transferts de compétences sont à poursuivre. Les compétences scolaires bonifient par exemple notre dotation à hauteur de 1,8 million d'euros. D'ores et déjà, nous sommes actifs à travers différentes mesures adoptées. Développement des groupements de commandes pour acheter plus tout en dépensant moins. Développement des mutualisations de services, le service culture, prévention, technique et bientôt RH, finance notamment. Le recours aux investissements vertueux contribuant à baisser les dépenses de fonctionnement à travers notamment le contrat de performance énergétique. Systématisation des APCP pour une meilleure gestion et programmation de nos investissements. Amélioration du CIF, le coefficient d'intégration fiscale, je viens d'en parler, actuellement à 33%, après transfert scolaire, il passera à 56%. L'optimisation des recettes fiscales, création de la taxe sur les friches commerciales, adoptée tout récemment dans cette assemblée, et modification de la cotisation minimum de CFE. Voilà, mesdames, messieurs, madame la présidente, un ensemble de chiffres, ratios, coefficients qui vous aura, nous l'espérons, éclairé sur le contexte, la situation financière de l'agglomération, nos objectifs et les leviers pour y parvenir. En résumé, je dirais que le contexte compliqué nous imposera à faire des choix pour garder à l'agglomération à l'horizon 3 et 5 ans des marges de manœuvre suffisantes, et cela bien que la situation financière de notre communauté soit aujourd'hui satisfaisante. Nous avons à préparer le budget 2015, certes, mais plus encore à nous projeter en 2016-2017 jusqu'en 2020 pour donner à notre collectivité les moyens de fonctionner et surtout de se développer.
Merci beaucoup Hervé Bayard pour cette présentation à la fois simple et complète, et surtout avec des questions posées pour l'avenir. Je remercie aussi la commission des finances qui travaille, je crois, de façon très concrète sur tous ces sujets et qui va continuer à travailler de façon très concrète sur tous ces sujets, puisque, c'est ça, hein, la collectivité, on est ensemble pour réfléchir et trouver tous les moyens pour assurer des objectifs et puis un avenir aussi pérenne pour notre collectivité. Je suppose qu'il va y avoir des prises de parole, donc c'est un débat. Non. Ben, je crois que ça a été très 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 clair et sans questions ni contradictions. Rien de particulier ? Alors, c'est plus un débat, c'est un monologue. Merci Hervé. Et merci à la commission des finances, surtout, parce que le monologue en question, c'est vraiment le travail qui a été fait avec tous. Et je sais que vous êtes tous sollicités, en fait, tous ceux qui font partie de la commission des finances, dans des commissions, dans des commissions de travail, des groupes de travail pour justement faire avancer cette réflexion collectivement. Alors certes, on est dans une période compliquée avec peut-être certainement pas la facilité qu'avaient peut-être les collectivités auparavant, Moi, ce qui me préoccupe, je vais le redire là, je m'étais déjà un peu exprimée là-dessus, c'est c'est pas une difficulté, parce que nous avons besoin vraiment de ces politiques sociales, notamment pour les personnes âgées que développe le CIAS, mais c'est vrai que il est prévu là dans le document une subvention d'équilibre à la même hauteur que 2014, pardon. Je ne suis pas sûre que ce sera suffisant, parce que on a des services, notamment les services à domicile, qui accusent de très graves déficits, de déficits de plus en plus importants. Et plus il y a d'activités, et plus le déficit s'accentue. Alors vous imaginez que c'est pas une entreprise commerciale, cette affaire, parce que c'est plutôt l'inverse dans ces... Et moi, la difficulté, c'est que les questions que nous pouvons nous poser, c'est jusqu'où allons-nous pouvoir aller, voilà. Parce que c'est pas un problème de gestion, hein, pas du tout, puisque la gestion a été très rationalisée, enfin il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre, mais c'est des problèmes de besoin de territoire, et jusqu'où pourrons-nous, nos collectivités, qui en définitive ne sont pas du tout chefs de file, nous, dans ces politiques-là, hein, nous sommes on les met en œuvre, mais je ne sais pas jusqu'où nous allons pouvoir aller dans ces déséquilibres, et nous, notre collectivité, vous soutient. Alors bien entendu, autant vous dire qu'on est assez satisfait de la façon dont les choses sont mises en œuvre sur le territoire, hein, et que nous allons continuer à les encourager, mais c'est vrai que sur le plan équilibre budgétaire, c'est très très compliqué. Donc voilà, dans une conjoncture pas simple, avec donc des missions importantes, mais qui sont des missions qui non seulement ne génèrent pas de ressources, mais au contraire génère du déficit et donc des besoins, à nous effectivement de trouver des leviers de ressources divers, et à nous aussi d'être, par les actions que l'on mène, des leviers pour que, parce que la part des ressources économiques sur notre territoire, dans les intercommunalités, n'est pas neutre quand même. Et plus nos entreprises sur le territoire vont bien, entreprises qu'elles soient industrielles, qu'elles soient commerciales, que ce soit des commerces, plus elles vont bien, et puis plus en fait elles font aussi, elles participent aux ressources de notre collectivité, donc c'est important que nous puissions avoir des actions de levier également pour les entreprises, pour pouvoir augmenter nos ressources. Bien, et ben merci beaucoup Hervé pour ce débat, enfin pour cette présentation. La séance, la demande de garantie d'emprunt pour une opération de construction de 24 logements sociaux sur la ZAC du Peyroit, Hervé Bayard.
Donc, dans cette délibération, nous devons accepter que la communauté se porte garant de deux emprunts contractés par la société SNI, filiale de la Caisse des dépôts, dans le cadre de la réalisation d'un ensemble de 24 logements sociaux situés ZAC du Peyroit à Mont-de-Marsan. Les deux emprunts, un PLS d'un montant de 882 431 euros sur 40 ans et un PLS de 730 872 euros sur 30 ans, seront garantis à hauteur de 100% par le Marsan Agglomération. À ce jour, la communauté d'agglomération a apporté sa garantie d'emprunt à 7 reprises, à chaque fois dans le cadre de la création de logements, 6 fois pour la Clercienne et une fois pour Lisa.
Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Pardon. Monsieur Antunes est contre. Des abstentions ? C'est adopté à la majorité avec une voix contre. L'agenda d'accessibilité programmée, ADAP. Bertrand Tortigue.
Merci Madame la Présidente. Depuis la loi du février 2005, donc, qui impose la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du public d'IERP, aussi bien public que privé, ainsi que des transports, donc cette loi donc disait que tous ces établissements devaient être accessibles au 1er janvier 2015. Mais compte tenu des difficultés pour rendre accessibles aux ERP les transports, une ordonnance du 26 septembre 2014 a été adoptée pour accorder un délai supplémentaire afin d'accéder à cette accessibilité. Cette ordonnance concerne à la fois le secteur public ainsi que le secteur privé. Et en particulier, à cette ordonnance, il y a la création de l'agenda d'accessibilité programmée, encore appelé l'ADAP, qui est un acte volontaire d'engagement qui ne substitue pas à la loi 2005, mais qui la complète. Cette ADAP est donc obligatoire pour tous les ERP non conformes en accessibilité au 31 décembre 2014 et devra être déposée au plus tard le 27 septembre et sera validée par le préfet. Un dossier validé donc sera mené à son terme. Pour cela, il y aura des dispositifs avec des contrôles réguliers et des sanctions financières graduées en cas de non-respect de cette ADAP. Le but de cette ADAP est donc d'établir un état des lieux du patrimoine de bois bâti ainsi que des transports de notre communauté. Il peut s'étaler en trois périodes de 3 ans, chaque période pouvant aller de 1 an à 3 ans en fonction des différentes catégories. Je vous rappellerai qu'il y a donc 5 catégories, 1 à 5, et la majorité des établissements privés, en particulier ces catégories 5, c'est-à-dire établissements qui reçoivent au maximum 50 personnes à l'instant T, et la plus grande catégorie étant tout ce qui est transport en commun, RATP, métro et tout ça. Donc après avoir fait le diagnostic, il sera établi aussi un prévisionnel donc, financier, et en fonction de l'importance des travaux à faire, il sera accordé pour chaque période entre 1 et 3 ans, sachant que si vous avez une période de 3 ans, vous ne pourrez pas décider, par exemple si vous avez la période 2016-17-18, vous ne pourrez pas décider de faire vos travaux les 3 derniers mois de l'année 2018. Non, il faudra établir un échéancier annuel et démarrer les travaux la première année, et des contrôles seront effectués pour voir si vous respectez cet échéancier. Et enfin, pour terminer, cette ADAP comporte des listes de dérogations aux règles d'accessibilité susceptibles d'être demandées. Donc voilà, il est demandé donc, et proposé au Conseil communautaire de s'engager dans un agenda d'accessibilité programmé, en rappelant aussi que du fait du transfert de compétences, nous aurons à le faire à partir du 1er juillet pour nos écoles. Voilà, Madame la Présidente.
Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons au désherbage. Amélioration des pratiques de désherbage, c'est la signature de la charte et d'une demande de subvention. C'est dans l'engagement Ecofito 2018. Jean-Yves Paronneau.
Dans le cadre de sa politique environnementale, l'agglomération du Marsan a souhaité s'engager dans une démarche de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage des espaces publics. Cette action s'inscrit dans une démarche plus globale de gestion différenciée, dont l'objectif est de formaliser la politique d'entretien des espaces publics de l'agglomération et de la ville de Mont-de-Marsan. Sur le volet désherbage, le Marsan s'est associé au service de la ville de Mont-de-Marsan afin de proposer des solutions organisationnelles et matérielles permettant de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires pour entretenir les abords routiers et les espaces verts. L'objectif est de s'engager dès à présent dans cette démarche et d'anticiper une réglementation en constante évolution, avec notamment le plan Ecofito, qui est une mesure du Grenelle de l'environnement et qui a pour objectif de diviser par 2 le recours aux produits phytosanitaires, ceci entre 2008 et 2018. La loi Labbé du 6 février qui prévoit la mise en place de l'objectif zéro phyto dans l'entretien des espaces publics, particulièrement les espaces verts. Ceci au 1er janvier 2020, date qui pourrait être avancée au 1er mai 2016. Plusieurs initiatives ont été lancées en 2014. Inventaire des pratiques de désherbage pour optimiser l'intervention des services de l'agglomération et de la ville de Mont-de-Marsan. Recherche de subventions pour financer l'achat de matériel de désherbage. Expérimentation de zéro phyto sur un secteur de la ville de Mont-de-Marsan. et ainsi que la formation des agents au CertiFito. Afin de prétendre aux aides de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et du Conseil général, dont la participation financière cumulée peut atteindre 75%, ce qui n'est pas rien, et en vue de la constitution du dossier de demande de ces deux subventions, l'agglomération souhaite concrétiser son engagement via la signature d'une charte l'encourageant à mieux maîtriser les pratiques de désherbage pour tendre vers la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le principe de cette charte, de valider le principe de réduction des produits phytosanitaires et de solliciter les subventions auprès du Conseil général et de l'Agence de l'eau.
Merci Jean-Yves. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le lancement de la procédure d'élaboration du deuxième programme local de l'habitat. Jean-Paul Le Tyran.
J'étais perdu. Oui, Madame la Présidente. Lancement de la procédure d'élaboration du deuxième programme local de l'habitat du Marsan d'agglomération. Je rappelle que le premier PLH du Marsan agglomération a été adopté en novembre 2010. Le programme local de l'habitat, PLH, est un document cadre qui définit pour une durée de 6 ans les objectifs et principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes, entre les quartiers d'une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Je rappelle les principales actions menées durant ce premier PLH, de favoriser la production de logements sociaux avec la mise en place d'un règlement d'intervention en faveur du logement social, d'améliorer l'habitat privé. Une OPH et RU a été mise en place sur le cœur de ville de Mont-de-Marsan et un programme d'intérêt général sur le reste du territoire. Dans le domaine de l'hébergement spécifique, de créer et de gérer des aires des gens du voyage, conformément au schéma départemental d'accueil et d'habitants des gens du voyage. Compte tenu des évolutions du territoire et des exigences réglementaires tenant à l'expiration de la durée d'exécution de ce premier document, il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir le PLH communautaire. Je rappelle que le PLH doit comprendre un diagnostic partagé, des orientations stratégiques, un programme d'action opérationnel et territorialisé. Bien évidemment, les acteurs de l'habitat du territoire seront associés à la procédure d'élaboration du PLH. Voilà, Madame la Présidente.
Merci beaucoup. Bien, y a-t-il des questions particulières ? Bon, alors notre premier PLH, ben, je crois que nous avons bien travaillé à le mettre en œuvre. Nous atteignons des objectifs, nous commençons à atteindre des objectifs intéressants, notamment dans le l'OPA RU et le programme d'intérêt général, avec des opérations qui sont lancées. Il faut du temps, il y a un temps d'inertie pour lancer les opérations, pour aussi faire connaître les dispositifs, lancer les opérations, mais bon... Une fois qu'elles sont lancées, je crois que, ben d'ailleurs, ça a tellement de succès que c'est l'ANA qui ne suit pas. Enfin, il y a des fonds qui ne sont pas suffisants, en définitive, pour accompagner les opérations. Très bien. Y a-t-il des questions ? Pas particulièrement, donc nous sommes tenus de lancer ce PLH. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le schéma directeur cyclable interurbain. Qui c'est qui nous fait ça, Bertrand Torti ? Jean-Yves, pardon. Excusez-moi, messieurs.
Vous ne battez pas sur les déplacements.
Le plan global de déplacement adopté par le Conseil communautaire du 8 juin 2011 prévoit la réalisation d'un schéma des itinéraires cyclables ainsi que des orientations et des mesures destinées à favoriser la pratique du vélo. Dans cette optique, un groupe de travail rassemblant les élus référents les représentants des associations cyclistes ainsi que les techniciens du Marsan Agglomération et des villes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer un projet de schéma directeur cyclable. La procédure de concertation mise en œuvre a permis de dégager une cohésion sur un schéma directeur qui permettra d'assurer la continuité des itinéraires sur le centre urbain et les communes de l'agglomération. Le schéma directeur se décompose ainsi en deux parties, un schéma cyclable pour le centre urbain et un schéma cyclable interurbain pour les communes rurales de l'agglo. Le schéma cyclable sur la zone urbaine a été réalisé en 2013 et approuvé par délibération du Conseil communautaire lors de la séance du 18 février 2014. La procédure de concertation concernant la deuxième partie du schéma est maintenant terminée. Depuis sa première présentation lors de la commission développement durable du 16 septembre 2014, la commission cycle s'est réunie à plusieurs reprises et toutes les communes ont été sollicitées pour avis. Les observations recueillies ont été prises en compte et retranscrites dans la nouvelle carte du réseau cyclable interurbain. Le schéma présenté doit donc constituer un document de référence en matière de liaison douce. L'objectif est de réaliser un maillage cohérent au regard du diagnostic et des pratiques clairement identifiées lors de la concertation et d'assurer une continuité des itinéraires tout en améliorant la sécurité des cyclistes. Cette deuxième déclinaison du schéma doit notamment permettre d'orienter les cyclistes sur des axes à privilégier pour leurs déplacements interurbains. Il répertorie différents types d'itinéraires praticables par des vélos classiques ou des vélos tout-terrain et permet d'identifier les chemins et pistes prioritaires qui pourront faire l'objet de travaux d'aménagement. Considérant la nécessité de développer la pratique du vélo, il vous est donc demandé d'approuver le schéma directeur cyclable interurbain annexé à la présente délibération. C'est-à-dire, vous l'avez joint.
Bien. Alors, à vos vélos, enfin, celui qui ira de Pouille-de-Sault jusqu'à Geloux, il va déjà faire pas mal de kilomètres. Hein. Y a-t-il des commentaires ? Bon, alors simplement dire, enfin, Jean-Yves l'a dit, qu'il y a vraiment un travail qui a été fait avec les associations et qui m'ont d'ailleurs envoyé un courrier me disant toute leur satisfaction de ce qui avait été rajouté, enfin des prises en compte, des propositions qu'ils avaient émises. Donc voilà, c'est un vrai travail collaboratif avec ceux qui pratiquent, en fait, parce que c'est ça le plus important. Bien, pas d'avis contre, pas d'abstention. Nous avons donc adopté ce schéma directeur. Je vous remercie. Nous allons passer à deux délibérations qui concernent le tourisme. La modification des conditions d'application de la taxe de séjour communautaire. Joël Bonnet.
Merci, Madame la Présidente. Oui, effectivement, depuis le 1er janvier 2013, la taxe de séjour a été instaurée sur le territoire du Marsan, suite à une délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2012. De par la nouvelle loi des finances 2015, les conditions d'application de la taxe de séjour ont été substantiellement modifiées, en ce qui concerne notamment les modifications des tarifs planchers et plafonds des catégories d'hébergement, la création de nouvelles tranches, l'application de la taxe au réseau de location en ligne et les modifications d'exonération. À ce titre, les collectivités qui collectent cette taxe doivent délibérer afin de se conformer aux nouvelles dispositions législatives. Vous avez la liste des nouvelles exonérations, la liste des exonérations et réductions supprimées, ainsi que les nouvelles catégories d'hébergement individualisées avec les nouveaux plafonds, ainsi que toutes les modifications qui existent, notamment en matière tarifaire. Donc il est demandé je vous demande de vous rejoindre la catégorie d'hébergement et les taux, hein, les tarifs qui ont été appliqués sur la nouvelle taxe de séjour. Vous verrez qu'il y a même une taxe pour les palaces que nous n'avons pas encore. Donc voilà, il faut l'indiquer. Donc il y a également une nouvelle taxe qui apparaît qui n'existait pas, c'est l'emplacement dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures qui n'existaient pas et qui ont lieu d'être désormais. Donc voilà pour les taxes de séjour. Vous avez le montant qui est indiqué sur le tableau, entre les planchers et les plafonds qui sont des différentes catégories. Donc voilà quelles sont les modifications des conditions d'application de la taxe de séjour communautaire.
Merci Joël. Il s'agit, oui, d'une adaptation à la loi, pas d'une augmentation de nos taxes de séjour. Hein.
Voilà, tout simplement.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Autre dossier tourisme, la candidature à l'appel à projet régional, structuration touristique des territoires aquitains. Joël Bonnet.
Oui, il s'agit d'une délibération non négligeable concernant l'appel à projet qui doit être mis en place. Le règlement d'intervention 2007-2013 de la région Aquitaine proposait la mise en œuvre d'un dispositif contractuel ouvert à tous les pays souhaitant s'engager dans une convention d'organisation et développement touristique des territoires articulée autour de deux axes, la structuration touristique et la valorisation de filières majeures et prioritaires du territoire. Pour la période 2014-2020, la région Aquitaine souhaite soutenir des projets partagés à l'échelle de territoires touristiques pertinents, dotés d'une maîtrise complète des compétences tourisme, engendrant la mutualisation de moyens appropriés et l'élaboration de stratégies communes de développement. Dans le cadre de la clause générale de compétences et des compétences exercées par les régions, l'Aquitaine souhaite afficher ses priorités via les actions de professionnalisation, formation, d'innovation et d'e-tourisme, d'observation économique et touristique. Pour cela, la région Aquitaine soutient sous la forme d'un appel à projet les territoires candidats souhaitant s'engager dans une volonté d'amélioration de l'organisation générale de la filière touristique et dans un processus de consolidation des actions de professionnalisation, de déploiement collectif et partagé d'opérations destinées à développer la qualité des services, notamment par l'engagement des démarches collectives, l'évolution des outils numériques, le suivi de l'observation, l'amélioration du fonctionnement et des lieux d'information touristique. L'appel à projet a pour objet de professionnaliser les personnels des institutions publiques et les prestataires touristiques au regard des besoins définis par le territoire, qualifier l'offre touristique des territoires, définir une stratégie numérique partagée du territoire en relation avec son positionnement et son programme de formation, soutenir les offices de tourisme dans les évolutions et leur mission et dans leur politique d'amélioration d'accueil des clientèles, les conditions à remplir pour être éligible à l'appel à projet structuration touristique des territoires sont les suivantes. L'effectivité de la compétence tourisme intégrant le bloc office du tourisme et le développement touristique, la présence d'un office du tourisme de catégorie 1 ou 2, je vous rappelle que depuis peu, l'office du tourisme du Marsan bénéficie de la catégorie 1, la nomination d'un référent et la constitution d'une équipe projet, la définition d'un mode de gouvernance, l'appui sur une réelle pertinence territoriale. Depuis 2012, un certain nombre de collaborations ont été mises en place avec les territoires du Marsan, mais également de l'est du département, c'est-à-dire le syndicat mixte de Landes Armagnac et Cap de Gascogne, pour ce qui concerne un certain type d'activité. Cette démarche répond à la volonté commune de permettre l'émergence d'une destination touristique intérieure structurée à l'échelle de l'est du département, en capacité d'offrir une alternative de séjour aux touristes choisissant l'intérieur de l'Aquitaine comme lieu de villégiature. Pour cela, il a été mis en place en collaboration avec le Marsan Agglomération, le syndicat mixte de Landes Armagnac, des communautés des communes de Cap de Gascogne et du Pays Grenadois, qui répondent aux critères de l'objet de l'appel à projet structuration touristique des territoires et qui représentent un bassin touristique pertinent à l'échelle de l'est du département et qui souhaitent déposer un dossier commun auprès de la région Aquitaine afin de bénéficier des aides dans le cadre de ce dispositif. Il est donc demandé à Madame la Présidente de déposer une candidature à l'appel à projet structuration touristique des territoires en collaboration avec les partenaires que je viens de citer. Et pour cela, cet appel à projet sera coordonné via un comité de pilotage et un comité technique composé pour le comité de pilotage du président de l'EPCI ou du syndicat mixte, du président de l'Office du tourisme, le vice-président de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge du tourisme, le directeur général des services de l'EPCI ou du syndicat mixte et le directeur ou responsable de l'Office du tourisme en ce qui concerne le comité de pilotage et pour le comité de technique, le directeur ou responsable de chaque office du tourisme.
Merci Joël. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Bon, autant dire que c'est là encore un joli projet de travail de territoire, de territoire qui travaille en commun, et que notre collectivité aurait pu répondre seule à cet appel à projet régional, puisque nous avons le statut d'office de tourisme de catégorie 1 depuis janvier. Ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle pour notre territoire, et je crois que l'investissement que nous avons voulu développer au niveau de la création d'un office de tourisme intercommunautaire dans les murs, mais également l'investissement humain des personnes qui travaillent dans cet office de tourisme porte leurs fruits, et nous sommes le seul office de tourisme de catégorie 1 à l'intérieur du département. Les autres sont littoraux, et puis il y a Dax, bien sûr, avec le thermalisme, qui est un office de tourisme important. Je pense que ça démontre le travail qui est fait à ce niveau-là. Et le fait d'être dans cette catégorie nous permet de pouvoir répondre à cet appel à projet et nous permet de pouvoir entraîner avec nous dans cet appel à projet les autres offices de tourisme qui ne sont pas catégorie 1 ou 2 de Saint-Sevé, donc de Landes d'Armagnac et de Grenade, et qui n'auraient pas pu répondre seuls, qui n'auraient pas pu répondre à cet appel à projet. Donc c'est aussi de la solidarité territoriale. Et puis c'est aussi un projet de développement touristique territorial à l'échelle de l'Est du département. Donc je crois que on répond à beaucoup d'appels à projets, vous avez vu. Mais je crois que c'est important de pouvoir bénéficier. Alors je ne sais pas si nous serons retenus, hein, mais c'est important de pouvoir bénéficier d'aides pour mettre en œuvre toutes ces politiques. Avec les chefs de file, bon, la région est assez chef de file en tourisme sur ce type de projet. C'est important, je crois, de travailler sur un segment plus important que notre agglomération pour faire rayonner un petit peu cette partie du département.
Une précision, nous avons été obligés de précipiter les choses.
Oui, ça c'est...
Pas sans conséquence, puisque cet appel à projet devait être déposé pour juin 2016, à l'origine, et il doit être déposé avant juin 2015, enfin il sera vu avant juin 2015, donc il faut le déposer avant le 31 mars 2015, alors qu'à l'origine c'était prévu pour juin 2016.
Ça, c'est en raison de la restructuration des régions. Il va y avoir des années de flottement la restructuration des règlements d'intervention, des équipes dans les services. Et c'est vrai que je crois qu'ils souhaitent, la région Aquitaine souhaite le passer avant pour justement que ces projets soient lancés, soient retenus avant cette fusion. Très bien. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vais donner la parole à Pierre Mallet, car nous avons quelques délibérations qui concernent les ressources humaines.
Bien, merci Madame la Présidente. Cette délibération vous propose de fixer la liste des emplois concernés pour une concession de logement pour nécessité absolue de service. Il s'agit de notre directrice générale des services, Caroline, que vous avez eue tout à l'heure, que Madame la Présidente a présenté. Cette attribution est effectuée à titre gratuit. Bien sûr, les charges locatives sont acquittées par elle, bien sûr. Ce logement sera soumis, puisque c'est un avantage en nature, à cotisation et imposition.
Y a-t-il des questions ? Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité. Création d'emplois au centre technique.
Oui, cette délibération vous propose de pérenniser un emploi temporaire d'encadrant au centre technique, puisque nous avions besoin de réorganiser la chaîne hiérarchique au sein du centre technique de l'agglomération. Cette mission est achevée, ce besoin d'encadrement est réel, et donc il vous est proposé de créer un poste d'agent technique deuxième classe à temps non complet, 28 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars, et d'y affecter bien sûr les crédits nécessaires.
Pas de problème, c'est la pérennisation de l'emploi qui existe. Pas de questions. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le recrutement de l'agent contractuel aux fonctions de responsable de la fourrière communautaire.
Oui, alors là, c'est vraiment Oui, c'est vraiment un recrutement, puisque pour les autres délibérations, c'était juste une continuité de service. Là, c'est le recrutement d'un agent contractuel pour être responsable de notre fourrière. Donc, je vais peut-être demander à Jean-Yves d'en dire deux mots, puisque vous savez que la fourrière, nous avons pris la décision de reprendre cette fourrière à régie. Et comme Jean-Yves s'est occupé du dossier, je pense que c'est légitime que ce soit lui qui vous en parle.
Oui, alors je précise que, pour ceux qui l'ont pas en tête, que la gestion, enfin la fourrière, est une fourrière animale est une obligation pour les collectivités. Il faut que nous ayons une fourrière, pour pouvoir c'est récupérer les animaux errants, et que nous rendons ce service aussi pour, 120 communes des Landes sur notre agglomération, c'est ça, qui nous confient leurs besoins, qui nous confient leurs animaux surtout. Voilà. Jean-Yves, alors sur l'évolution de la fourrière, oui.
Oui. Donc le Marsan Agglomération va reprendre en régie la gestion de la fourrière communautaire qui était gérée par la SPA.
Jusque-là.
Voilà. Donc, sans pour ça s'éterniser sur la question, il nous a semblé, enfin je l'avais proposé à Madame la Présidente, il faut savoir que le budget qui est alloué à la fourrière est de 150 000, enfin, entre 140 et 150 000. Il me semblait, à une époque où on doit faire des économies, il me semblait que si on prenait la main des économies, on allait en faire. Déjà, on peut s'apercevoir au départ que nous allons faire des économies. Il y avait aussi un problème de dysfonctionnement, enfin dans le fonctionnement, qui a été admis par la direction de la SPA qu'on a rencontré ce matin et qui ont admis qu'ils ont dit effectivement il y a un problème, il y avait un mélange des genres, quoi. C'est-à-dire tout était un peu mélangé entre le refuge, qui doit être ces deux entités qui doivent être totalement différenciées. Et apparemment, c'était l'amalgame entre la fourrière, enfin, qui payait quoi, ça, on ne savait pas trop. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un responsable pour la fourrière, qui sera aidé par deux emplois d'avenir. Et alors là, il faut attendre la commission de la médecine du travail, un reclassement du CIAS. Et là, on ne sait pas trop. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est un bilan peut-être à la fin de l'année, et on vous dira exactement ce qui va en être. Voilà.
Oui, merci. Bon, nous avons rencontré, il n'y a pas de problème particulier avec la SPA, qui va continuer son activité sur les lieux à côté, et nous qui aurons notre activité fourrière, qui est réglementaire, bien réglementé d'ailleurs, service aussi que nous faisons pour, je vous le dis, plus de 100 communes landaises. Nous traiterons cela en régie tout simplement. Voilà. Donc, pour ce recrutement de cet agent contractuel, donc aux fonctions de responsable de la fourrière communautaire, y a-t-il des questions d'abord ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La création d'un emploi de technicien, je pense que là aussi c'est une pérennisation d'un emploi, c'est pas la création d'un nouvel emploi.
Oui, cette délibération vous propose, nous avions autorisé le recrutement d'un agent contractuel, contrat unique d'insertion, pour aider le service environnement lors de la création notamment du parc naturel urbain. Ce contrat arrivant à échéance, on vous propose de pérenniser cet emploi en créant un emploi de technicien territorial à temps complet, technicien à temps complet, à compter du 2 avril, et d'y affecter bien sûr les crédits nécessaires. Voilà, Madame la Présidente.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Eh bien, je crois que nous avons terminé notre ordre du jour. Je vous dis qu'il y a le 6 mars, c'est le 6 mars, à 14h, c'est un vendredi, l'inauguration du site des Neuf Fontaines, et qu'il y aura d'ailleurs le lendemain une journée porte ouverte, découverte pour les habitants du territoire avec des animations. Mais le 6 mars, vous êtes tous invités à participer à cette inauguration du site des Neuf Fontaines. Voilà. Et puis, on l'inaugurera plus tard, au mois d'avril ou de mai, mais enfin, le pôle d'échange multimodal de la gare